Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre 17e, 5e saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour, alors, l'AREM Lézignan.
Bonjour.
Alors, respectivement, Bruno Parolin, Tatiana Koulikova et puis Victorien Lunion, qu'on va retrouver dans une troisième partie, où ils vont nous expliquer respectivement et respectueusement, au passage, ce qu'ils font sur Lézignan en formant, en construisant ce comité lézignanais qui s'appelle, je crois, Lézignan, Corbière, Minervois, ce qui est normal, puisque Lézignan se trouve au carrefour de ces deux régions. Michel, nous avons un sommaire comme d'habitude, dans lequel tu vas commencer par le grand débat, alors en France et en Narbonnaise quand même, oui. Aussi, enfin dans l'Aude, dans notre région. Après quoi, dans une deuxième partie, tu nous entretiendras sur un thème que tu intitules « L'Occitanie garde ses deux rectorats ». Bon, elle a déjà elle a gardé deux capitales, alors pourquoi pas. Et ensuite, alors un sujet peut-être un peu plus spécifique et atypique, si je puis dire, je te cite, « J'ai rencontré des ammonistes heureux. Des ammonistes, ce sont des adeptes de Ammon. »
C'est ça, j'ai même rencontré, oui, évidemment, je fais une référence à un titre de quoi, au fait, de film, en fait, hein, ou de roman, je ne sais plus lequel d'ailleurs, en parenthèse. Mais bon, ça existe, j'en ai rencontré, effectivement.
Voilà, Ammon, c'est celui, rappelons-le, qui a fait 6% à la dernière présidentielle pour le Parti Socialiste.
C'est ça, j'y reviendrai.
C'est un petit rappel au passage. Bon, alors Michel, nous t'écoutons d'abord sur le grand débat. Alors, tu vas débattre tout seul
Non, mais Jean-Claude, on ne peut pas échapper aujourd'hui, en fait, hein, le débat politique en France, il est structuré autour de deux grands sujets, les gilets jaunes d'une part et le grand débat de l'autre. Le second étant la résultante du premier, et les deux réunis, bon voilà, entretenant une dialectique qui fait qu'aujourd'hui on ne parle que du gilet jaune ou que du grand débat. Dernier événement en date, la performance que j'ai pu voir d'ailleurs de Emmanuel Macron devant des jeunes garçons et des jeunes filles, où encore une fois il a été de l'avis des commentateurs officiels, je parle des grandes radios, épatants.
Donc, mais espérons que la suite sera tout aussi épatante.
Oui, non, mais alors, pourquoi ce thème du grand débat, en fait, aujourd'hui, chez nous, en fait, Jean-Claude? Parce que circule l'idée, depuis l'ouverture du grand débat en tout cas, qu'au terme de celui-ci, et grâce à la synthèse qui serait produite de tous ces débats, en fait, organisés un peu partout, en fait, en France, Il y aurait, peut-être, certainement, probablement, sans doute, fait, que sais-je, un référendum qui viendrait conclure effectivement ce grand débat-là et qui proposerait aux Français un certain nombre de propositions par voie référendaire qui traduirait ce grand débat-là. Et pour ce qui me concerne, Jean-Claude, c'est pour ça que je voulais tenir à en parler, je ne suis pas sûr du tout, pour des raisons que je vais expliquer, que ce grand débat se conclura nécessairement par un référendum. Alors pourquoi je parie effectivement sur cette hypothèse? Parce que tout simplement, de mon point de vue encore une fois, la consultation du corps électoral ne peut être destinée, c'est la loi.
Oui, c'est voilà, c'est la Constitution
loi.
Ou la loi
non, c'est la loi. Qu'à approuver ou à proposer un texte à portée législative ou constitutionnelle. Oui. Premier point. Hein, et qu'il n'est... Là aussi, c'est mon hypothèse, qui n'est ni juridiquement, là ça c'est presque sûr quand même, hein, ni politiquement, ce qui reste à débattre, possible de rédiger un texte de la complexité de celui qui se ressortira nécessairement du grand débat, en sollicitant du dit corps électoral, c'est-à-dire toi et moi, son approbation de ce texte à plusieurs questions, en fait, avec plusieurs oui. Hein, qui pourrait satisfaire aux conditions juridiques et politiques que je viens d'exposer. De sorte que le grand débat, mon point de vue encore une fois, ne peut servir, et si cela n'a pas déjà été fait, qu'à identifier les préoccupations de la population, mais sûrement pas à créer, comme je viens de le dire, un nouveau code social, sociétal, fiscal, fait, destiné à servir de nouveau socle, fait, à notre constitution et à notre dispositif législatif.
Alors, il a été évoqué le débat, le QCM, à plusieurs questions. Est-ce que ça tient la route, ça?
Non, encore juridiquement, pour les raisons que je viens d'exposer, la question. La consultation du peuple, c'est une procédure législative, quoi. Elle est prévue dans le cadre de la Constitution, point. Bon, donc, lorsque la seule question posée permet de répondre par oui ou par non à l'adoption d'un texte qui est soumis à approbation.
Oui, ben, bon, ça, voilà, c'est limite.
C'est limite, voilà. C'est limite. Et dans le cas qui nous préoccupe, le texte ne pourrait prévoir que la fin de la démocratie représentative au profit d'une démocratie référendaire. La revendication exposée par certains gilets jaunes à travers leur fameux RIC, ce qui est quand même totalement exclu, me semble-t-il. On change complètement de régime, de dispositif politique par la voie de ce référendum, ce qui relèverait de l'absurde, un peu comme Alphonse Allais, quoi.
Ceci étant dit, comme on dirait au Café du Commerce, de quoi qu'on débat ?
Alors, c'est quand même intéressant ce grand débat, parce que toute la machinerie qui est mise en œuvre là, à travers ces grands débats, elle peut, à partir des thèmes présentés par le président de la République, ça peut permettre, par exemple, de recenser les divers textes législatifs, qui devraient être soumis au Parlement, et qui lui-même ferait son travail législatif à partir effectivement de cette synthèse-là, en fait, produite et posée au Parlement.
Il ferait son référendum à lui, quoi. Bon,
ce qui permettrait effectivement de conserver la machinerie législative de notre pays, tout en répondant à travers ces propositions de textes législatifs à un certain nombre de préoccupations avancées à travers le grand débat et synthétisées par le groupe en question qui est censé effectivement faire ce travail-là. Donc chacun resterait dans son rôle, le Parlement débattrait et proposerait un corpus législatif à partir de cette synthèse, le gouvernement exécuterait et tout le monde retrouverait...
Tu parles toi-même au conditionnel.
Oui, non, mais je parle au conditionnel parce que c'est une hypothèse de travail que je pose, auprès d'ailleurs de militants d'En Marche. Et je ne suis pas sûr d'être forcément dans l'erreur à présenter les choses ainsi. Mais quand je dis cela, c'est pas du tout pour minorer l'apport du grand débat à notre manière de concevoir le débat démocratique dans notre pays. Bien au contraire, c'est pour en montrer l'innovation qu'il pourrait être, ce grand débat, et ce qu'il apporterait à notre dispositif législatif qui aujourd'hui me semble bancal justement parce qu'il ne permet pas, compte tenu du système qui est le nôtre, la Ve République, élection du président au suffrage universel, au premier tour il fait entre 20 et 25% des voix, au second il gagne face à un candidat X ou Y, et dans la foulée avec les élections législatives qui sont concomitantes à l'élection présidentielle, on a une majorité
qui se dégage logiquement de la précédente élection.
De sorte qu'on se retrouve à la sortie avec un Parlement censé représenter la volonté nationale, qui en réalité représente un socle électoral. Celui du premier tour du président de la République.
Oui, qui est quand même un Parlement un peu croupion, même si ça ne fait pas plaisir à certains de l'entendre.
Donc ce grand débat permettrait effectivement d'introduire dans cette machinerie-là un dispositif, une manière de travailler qui, à échéance régulière, ou je ne sais rien, permettrait...
Voilà. Est-ce à dire que le grand débat devrait se répéter de temps en temps ?
Exactement, c'est mon hypothèse. Et je prétends que... cela permettrait bien entendu, ce que je viens de dire à l'instant, de donner du jus à notre délibération démocratique, mais pas seulement au niveau du Parlement. Je l'ai déjà évoqué ici à travers une chronique précédente, je crois, en évoquant l'idée qui pourrait être expérimentée justement en sortant, si elle sortait du grand débat, cette idée-là, qui pourrait être expérimentée au niveau local par la voie d'un système référendaire qui permettrait effectivement... Entre le moment où une majorité a été élue pour gérer une ville et le moment de sa sortie, c'est-à-dire 6 ans après, pendant l'intervalle, permettrait effectivement de vérifier la nature du lien entre la dite majorité au conseil municipal et les électeurs, et surtout la capacité des électeurs à répondre oui ou non à de gros investissements ou en tout cas à des politiques municipales qui ne sont pas forcément dans l'esprit de ceux qui ont élu les majorités en question au premier tour. En conclusion, je dirais, Jean-Claude, que ce genre de dispositif, cette manière de faire de manière innovante de la politique permettrait, pour aller très vite, d'éliminer cette fiction qui démocratique qui consiste à croire que parce qu'on est un élu, en fait, on élit une majorité à l'instant T, on est d'accord sur l'entièreté d'un programme qui est présenté. Ce qui est une fiction totale, en fait, qui, au moins à travers ce grand débat-là, pourrait avoir dans son débouché le mérite de la faire sauter.
Voilà, et on s'en est aperçu avec l'histoire des Gilets jaunes que personne n'avait vu venir, que personne n'avait prévu. On marque une première pause.